Commencez à être fatigué, là. Vous dites pour la sieste, non? Il y en a qui font des siestes. Pas de petite sieste, hein, vous autres? J'espère que non. Ah, peut-être que oui. On va tourner dans la Bible ensemble. Ceux qui ont une Bible, les parents, vous devez avoir votre Bible avec vous. Pendant que je vais installer mon micro, tournez avec moi dans 1 Timothée chapitre 4, s'il vous plaît, et donnez-moi une petite seconde. OK, alors vous aurez compris, ceux qui sont arrivés pendant le service, tout ça, vous aurez compris que c'est une matinée spéciale. C'est notre lancement des Explos, notre lancement des cours bibliques. C'est une belle matinée quand même, hein? C'est génial. Alors évidemment, on veut que ce soit orienté vers les enfants. Les enfants, vous aimez ça? Vous avez du plaisir? Tout à l'heure, on repart la structure gonflable, on va manger ensemble, tout ça. Et puis, la semaine prochaine, on tombe sur l'horaire régulier, mais l'horaire année. Alors, c'est important, si vous repartez d'ici ce matin et vous n'avez pas saisi que la semaine prochaine, ça commence à 9h, on a manqué notre coup pour passer le message. Donc, à partir de la semaine prochaine, les cours bibliques recommencent à 9h. On recommence l'année de 9 à 10, c'est les cours bibliques. Et puis ensuite de ça, il y a le service de louange, d'adoration avec la prédication. Il commence à 10h15. Lorsqu'on va s'arrêter tout à l'heure, vous êtes tous invités à rester pour un repas agapé. C'est-à-dire que tout est prêt. On va se donner un petit 15-20 minutes pour s'installer. Et puis on va avoir un repas. Vous êtes tous bienvenus. On va repartir la structure gonflable. Et ici à l'avant, on invite les adultes à venir nous voir puisque les professeurs qui donnent les cours bibliques pour adultes, on a 6 ou 7 cours, les 2 groupes de prière tous les dimanches matins de 9 à 10. Venez nous voir ici, on a de l'information pour vous aider à choisir quel serait le cours le plus utile pour vous cette année. D'accord? Alors ça va être tout de suite après. On m'a demandé aussi simplement de vous mentionner, notre frère Michael Roberts faisait des photos ce matin avec les enfants. Maintenant, ce serait utile pour nous d'avoir des photos, des moniteurs, des professeurs d'école du dimanche, ceux qui vont être dans la zone des explorateurs. Tous ceux qui s'impliquent, on vous demande d'aller voir Michael après dans la jungle pour aller faire une photo de vous pour cette année, pour avoir les informations. Et évidemment, Virginie et Pascal qui l'assistent sont demandés aussi de se rendre là après. Je ne sais pas si Rachel et Danny sont avec nous ou s'ils sont partis, ils vont venir tantôt, mais il faudrait prendre le temps de les remercier. Est-ce qu'ils sont là, Pascal? Danny, Rachel? OK, on les remerciera tantôt. Mais ils ont vraiment travaillé fort. C'est une belle matinée. C'est une belle matinée. Ça va être un beau matin. On va aller dans un mot de prière, les enfants? Avant de se pencher sur la parole de Dieu, et je vais avoir besoin de vous encore, les enfants, d'accord? J'aurai besoin que vous m'aidiez à trouver des bonnes réponses pour qu'on puisse grandir ensemble dans la parole de Dieu ce matin. Alors, on va prier, on ferme les yeux, puis on va demander au Seigneur de venir nous instruire ce matin. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta présence ici, pour la joie qu'il y a, Seigneur. Et cette joie dépasse les structures de jeu, l'animation, tout ça. Cette joie vient du fait que nous sommes assemblés autour d'un nom, le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce nom que nous voulons élever ce matin. Et c'est toi, Seigneur Jésus, que nous voulons poursuivre dans notre cœur parce que nous voulons apprendre à te ressembler. Viens nous faire grandir dans notre compréhension de ta parole et viens nous aider à comprendre ce matin un peu plus comment on grandit dans la vie chrétienne? Comment on avance dans la vie chrétienne? Comment est-ce qu'on devient plus comme toi, Jésus? C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen. Amen. Les enfants, est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu le football? Football américain, oui? Vous aimez ça? Oui, c'est vrai, on a des amateurs ici. Déjà allé voir un match des Alouettes, je pense, hein, Toby? Ce matin, on va parler un petit peu d'Anthony Calvillo. Je ne parlerai pas de sa foi. À ce qu'on me dit vraiment, il y a une foi, c'est un chrétien, puis il y a une foi, il est très intègre dans sa foi. Je voudrais parler un petit peu de son conditionnement physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée, avant d'aller vers les pères, là, qui regardent le foot tous les dimanches après-midi, avant d'aller vers les pères, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quel âge a Anthony Calvillo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Tu le sais, Tob? Bas, tu le sais, tu l'as entendu quand, toi? Vas-y, Tob.
Je crois qu'il est dans
la quarantaine. Presse, Bas. Il a 40 ans pile. Anthony Calvillo a 40 ans. Moi, je vais avoir 42 ans. Donc, c'est un vieux. Mais disons que pour le football professionnel, c'est pas un jeune, n'est-ce pas? C'est quand même un phénomène. C'est quand même un phénomène. Alors, il est né en 72, Anthony Calvillo. Quelqu'un qui peut nous dire qu'est-ce qu'il fait? Il est dans quelle équipe? C'est quoi sa position? Il y a juste Toby qui est un gros amateur de football ici, chez les jeunes. Vas-y, Tob. Les corps arrière avec les Alouettes. Excellent, excellent. Et c'est encore un des meilleurs corps arrière dans la ligue, est-ce qu'on me dit. Je suis pas un grand amateur de football, mais je trouve que c'est un beau sport. Tu veux rajouter un petit commentaire, mon top? Quoi? Tu vas me donner des stats? Vas-y, vas-y, vas-y. Prends le micro, top.
Il y a...
C'est bon, on t'entend.
Il marche, OK. Il y a une semaine, il a battu un record dans la Ligue nationale. avec plus de 8 matchs consécutifs avec 300 verges par la passe.
Excellent. Puis de toute façon, il avait établi aussi des records de nombre de verges lancées passées en carrière. Hein? Plus que 72 000 verges. C'est incroyable. C'est tout un joueur. C'est tout un joueur. Maintenant, ce monsieur-là, les enfants, il a 40 ans. Normalement, les joueurs vont pas nécessairement aller jouer aussi longtemps que ça. Et voilà quelques semaines, j'étais en train de lire un article dans la presse avec un de ses anciens coéquipiers, Mathieu Proulx, qui parlait. C'était quoi le secret? Comment est-ce qu'Anthony Calvillo avait réussi à durer aussi longtemps? J'ai quelques photos d'Anthony Calvillo en action. On peut regarder ça. Ceux qui pensent que le football, ça se joue avec un bâton, d'accord? C'est comme ça ici, le football. C'est avec un ballon. C'est avec un ballon. Je voudrais pas insulter personne, mais voici, on a Anthony Calvillo dans l'action. Il essaie de se dégager pour pouvoir faire son lancer ou faire une course. On a une autre photo aussi d'Anthony Calvillo. Et puis, on en a une fort sympathique où on le voit essayer d'impressionner les autres joueurs. Je pense, la prochaine photo, voici Anthony Calvillo qui essaie de nous dire qu'il a l'œil du tigre. Et puis, Mathieu Proulx racontait c'était quoi son secret. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur de football peut réussir à durer aussi longtemps, même s'il est en train de vieillir? Vous savez, non, vous ne le savez pas les enfants, mais un jour vous allez savoir qu'en vieillissant, il y a des petites douleurs qui apparaissent, il y a des nouvelles douleurs qui apparaissent, puis tu découvres toutes sortes de parties de ton corps que tu pensais qu'ils n'existaient pas en vieillissant, parce que ça fait mal par-ci, par-là. D'après vous les enfants, j'aimerais en avoir d'autres que Tob qui me disent... Qu'est-ce qu'un joueur de football doit faire pour pouvoir durer longtemps et exceller, être un expert encore? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'on en a d'autres qui veulent s'essayer? Top, basse, on va passer à quelqu'un d'autre. Un des enfants, qu'est-ce qu'un joueur de football doit faire s'il veut être un bon sportif longtemps? Oui, vas-y mon homme. S'entraîner. Il doit s'entraîner. S'entraîner. D'après vous, un joueur de football professionnel, ça s'entraîne combien d'heures par semaine? Est-ce qu'il y a un enfant qui veut s'essayer? Combien d'heures par jour? Vas-y, Tob, je vais le répéter. Une vingtaine d'heures, plus que ça encore. Alors, il doit s'entraîner constamment. Maintenant, qu'est-ce qu'un joueur professionnel pourrait faire aussi pour perdurer? Là, je vais demander la participation des parents, s'il vous plaît. Un joueur qui veut réussir longtemps doit s'entraîner. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour réussir justement à exceller pendant des années? J'ai une réponse ici, oui, une bonne alimentation, bien manger, surveiller son alimentation. Et c'est ce que Mathieu Proulx disait, c'est entourer à un certain moment donné d'une équipe de diététistes autour de lui. Il y a une discipline de faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Bien son sommeil, il doit veiller sur son sommeil, avoir une discipline régulière. Il doit avoir un bon coach qui va l'accompagner. Encore d'autres choses, j'ai d'autres idées qui me passent par la tête. Oui, Bastien? Prier, dans le cas d'Anthony Calvillo, définitivement. Puis je pense pas que c'est juste le petit genou qui plie de certaines équipes américaines qu'on voit des fois. Non, ça se demande. Non, non. Il y a une attitude. Dans le cas d'Anthony Calvillo, il y a une belle humilité. Oui, Mme Hamel. On a une experte ici dans le domaine. Oui, une bonne hygiène de vie générale. Et puis dans son cas, lui, je dirais aussi être bien entouré par sa famille. N'est-ce pas? On sait qu'il y a des belles valeurs familiales. Ce qui fait que le gars, lorsqu'il arrive sur le terrain, il n'est pas distrait par un paquet de problèmes dans sa vie, mais il sait qu'il s'est entraîné, il sait qu'il a bien dormi, il sait qu'il a bien mangé, il est bien supporté, il est bien coaché, il est à son affaire. Hein? C'est un spartiate qui est prêt à aller au combat. Et ça, c'est l'histoire d'Anthony Calvillo. Et c'est son secret qui fait qu'il peut réussir aussi longtemps qu'à 40 ans être encore un des meilleurs joueurs de football. Maintenant, ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est que chez nous, ici, dans l'Église, on a quelqu'un quand même qui a pas mal excellé au football et je voulais rendre ça un petit peu plus concret pour nous. Alors, j'aimerais inviter Julien Hamel à venir me rejoindre à l'avant. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Julien a joué, est-ce qu'on dit professionnel ou semi-professionnel?
Universitaire.
Je vais te laisser le micro. Tiens, Julien. On a juste quelques photos avant que je pose quelques questions à Julien. Alors, Julien a joué avec les Carabins de l'Université de Montréal. Et puis, on a quelques photos de lui dans l'action ou certains moments où il était reconnu comme le joueur de la semaine. Julien se démarquait, je vais le dire parce que lui, il le dira pas, mais il se démarquait par son attitude au jeu, son attitude avec les coéquipiers. Il était remarqué pour ça. C'était pas un gars qui était là pour flasher. Mais il était à son affaire et progressivement, il faisait sa marque dans l'équipe. Je sais parce que je l'ai entendu. Alors, vous avez Julien là qui est en action. C'est le numéro un, justement. Je pense que j'ai 2-3 photos de lui en action. Alors, j'ai quelques questions pour Julien parce qu'après ça, on va faire un parallèle, les enfants, avec la vie spirituelle. Vous savez que de la même manière qu'on peut s'entraîner pour devenir en forme, moi, je n'irais pas courir à côté de Julien puis faire une course avec lui. Vous pouvez nous regarder, vous voyez déjà la différence, n'est-ce pas? Mais je pense qu'Anthony Calvillo pourrait peut-être se tenir à côté de lui, par exemple. Alors, voyez-vous, moi, je ne pourrais pas le faire parce que Julien a fait un autre cheminement que moi. Il s'est préparé pour ça. Et tout à l'heure, on va faire un parallèle avec la foi, avec la vie chrétienne. Fait que Julien, j'ai une couple de questions pour toi. Combien de saisons tu as joué avec les Carabins?
5.
5 saisons. 5,
ouais, pour 14 ans de carrière, si on veut.
14 ans de foot,
ouais, ouais.
Puis 5 ans avec les Carabins. Ouais. Dis-nous, c'est quoi que tu préférais dans le foot? C'était quoi comme ton meilleur moment ou ce que tu appréciais le plus dans ce sport-là?
Moi, je dirais c'est les voyages. Là. C'est quand on allait jouer, mettons, dans les Maritimes. Ou tout, on part toute l'équipe ensemble, puis on met tout de côté, puis on pense juste à ce qu'on s'en va faire. Là.
Juste à focusser sur ouais. Le jeu, sur le match à gagner. Est-ce que tu étudiais les autres équipes?
Ah oui. C'était quasiment plus de vidéos, toutes ces choses-là, que quasiment d'entraînement. Là. On passait notre temps à regarder les autres équipes, voir leurs tendances, tout ça. Nous, moi, je jouais à défense, fait qu'on décèle, là, mettons, des erreurs qu'ils faisaient, puis qu'on puisse profiter de ça. Fait qu'il y a énormément de ça, ouais.
Parce que les équipes vont faire souvent les mêmes erreurs, faut voir que...
Ben, ils font souvent les mêmes jeux, ils ont souvent les mêmes tendances, mettons, dans troisième, deuxième et long, ce qu'ils font, en premier et 10, ce qu'ils font, puis c'est ça.
Okay.
Puis chaque joueur a des tics, on est capable de regarder ça.
Quelle sorte d'entraînement est-ce que toi, ça te demandait? Tu peux-tu nous donner une idée quelle sorte d'entraînement tu faisais lorsque tu étais actif là, pendant la saison?
Ben, ils voulaient qu'on fasse de la musculation. Ça fait que ça, on en faisait pas mal. On faisait aussi du track, là, c'est de la course.
OK. Musculation, ça veut dire quoi?
Musculaire.
Concret là, pour les enfants. Là.
Les muscles.
Les biceps?
Les muscles. Non, pas mal plus des jambes. Au football, ouais. Ça demande pas mal plus des jambes. Le haut du corps, à ma position, c'était pas vraiment nécessaire. Là. Avec beaucoup d'entraînement musculaire des jambes, puis aussi c'est pas juste ça sert pas, faut pas juste être gros, faut être rapide, faut être capable de transférer ça dans le fond sur le terrain. Fait que beaucoup de track, puis aussi beaucoup de physio puis tout ça pour réparer les blessures. Là.
Quelle sorte de blessure tu t'es faite pendant ta carrière?
Ah ben moi j'étais chanceux.
Non,
bien.
J'étais, la coach vient de parler.
J'étais béni. J'étais béni, j'ai pas été souvent blessé. Là. Les fois, je me suis blessé le plus, c'était en d'autres choses, là, en mettant, en faisant du snow, tout ça. Là. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont les ménisques déchirés ou des ligaments antérieurs, ou toutes ces choses-là, c'est déchiré. Puis là, maintenant, même après leur carrière, ils ont de la misère à courir ou quoi que ce soit. Moi, il m'est rien arrivé. C'est peut-être la façon que je suis faite. Je suis faite petit, fait que...
Qu'est-ce qui était le plus dur? Qu'est-ce qui était le plus difficile dans l'entraînement? Dans l'entraînement, pour commencer.
Une particularité du football, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de parties. T'sais, on joue, mettons, de fin août à fin novembre. En tout et partout, on a 10 parties. Fait que là, quand ça finit, ben, on repart et on recommence à s'entraîner. Fait que c'est énormément d'entraînement pour pas beaucoup de parties. Fait que c'est resté là. C'est quand le mois de février arrive, mois de février et mars, bon, ben, la saison est dans longtemps, mais c'est de rester motivé à s'entraîner. Puis à un moment donné, la fatigue embarque aussi. Là, c'est énormément de temps. T'es loin de ta famille, tu vois pas ton monde, t'as l'impression de juste faire ça, mais en automne, ça paye. Quand tu joues en automne, tu te rappelles pourquoi tu fais ça, puis c'est le fun.
Fait qu'hors saison, tu pouvais passer combien d'heures par semaine à t'entraîner?
Un bon minimum 3 heures par jour, mettons.
3 heures par jour hors saison?
Ouais.
Puis quand t'es en pré-saison, saison, tout ça, ça ressemble à quoi?
Pré-saison, ça augmente. On a un camp d'entraînement, puis ça, c'est 3 semaines intenses. On a du two days, qu'ils appellent. C'est deux pratiques par jour. Puis, un coup que la saison commence, bon, mais les pratiques diminuent, mais on a beaucoup plus de vidéos, on a beaucoup plus de, tu sais, comme pas d'intellectuel, là, mais de visuel, si on veut.
Ok, pas physique.
Fait que ça tombe quand même un 4 heures par jour, là, les pratiques toutes. Fait que c'est du 6 jours semaine. Là. Il y avait le lundi soir qu'on avait rien.
Un break le lundi soir.
Ouais, fait que.
Quelle sorte de discipline, toi, ça te demandait dans tes semaines? Qu'est-ce que tu surveillais constamment?
Ben, essayer de dormir le plus possible. Là. Souvent, nous, ils arrangeaient nos horaires, ils étaient capables de repousser soit les cours là, un peu plus tard le matin ou toutes ces choses-là pour nous permettre de dormir. Bien manger, parce que quand le mois d'octobre arrive, octobre, novembre, là, puis t'es dehors au frais tout le temps à pratiquer, puis le moindrement, t'es épuisé.
Tu manques d'énergie.
Tu peux te blesser aussi, là, c'est là que les risques de blessures arrivent. Fait que c'est, comme tu as dit tantôt, là, la même chose que pour Anthony Calvillo. Là, si on avait des nutritionnistes qui nous étaient attribués. Là,
okay.
Ils nous disaient quoi manger. Ils nous le payaient pas.
Ils disaient où dépenser.
Ouais. Fait que, en gros, c'est ça.
Qu'est-ce qui te reste, dernière question, qu'est-ce qui te reste comme de ton expérience au foot que tu vas garder après ça dans ta vie?
Ben, je pense une discipline, l'entraînement, faut être discipliné. Fait que j'essaie de plus possible de mettre ça dans ma vie, là, dans ma vie de tous les jours. Là. C'est sûr que c'est différent, là, mais. Puis aussi, mettons, chez nous, c'était quand même pas si pire, là, mais l'esprit d'équipe. Tu travailles tout le temps en équipe au football, t'es 12 sur le terrain, t'as besoin des 12 gars, mais de transférer ça ailleurs. Puis de. En tout cas, d'essayer de travailler le plus possible en équipe. Puis habituellement, tu fais de plus grandes choses comme ça. Là.
Super, merci.
Ouais,
super. Merci, Julien.
Ah, merci.
Salut. Merci. Est-ce que j'ai un enfant qui aurait le goût de venir me lire un verset? J'en ai-tu un qui est à l'aise pour me faire une petite lecture? Je vais vous faire lire mon passage de ce matin. Quelqu'un d'autre que mon blondie? En as-tu un autre qui veut lire? Non? Maxime. OK, je vais le lire. Ah, oui, viens-t'en, Louis-Victor. Alors ce matin, on va voir ensemble des parallèles qu'on peut faire justement avec tous les efforts que ça peut prendre d'exceller pour réussir vraiment dans le sport. Et on va le faire avec le domaine de la foi. Et puis, on va lire ensemble, en fait, on va écouter la lecture du verset 8, 1 Timothée 4, verset 8, juste ici, 1 Timothée 4, okay. 8.
Exerce-toi à la pitié, car l'exercice corporel est utile un peu de choses, tandis que la pitié est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et celle qui est à venir.
On va le reprendre avec piété.
Ça veut dire quoi, ça, piété?
On va voir ça ensemble. Fait que mets-y le mot piété ici, puis reprends-nous ça.
Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir.
Merci, mon homme, merci. Hey, le mot piété, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Pas tout le monde qui connaît le mot piété, c'est vrai, c'est une excellente question. Est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait s'essayer à me dire, j'aimerais vraiment ça, les enfants, j'aimerais ça que d'autres parlent, parce que tu sais, Bastien, je l'entends parler toute la semaine. Fait que j'aimerais ça en avoir d'autres qui parlent. Est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait essayer juste comme ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la piété? C'est un mot qui n'est pas tellement à la mode. Oui, tu veux-tu t'essayer? Tu veux pas t'essayer? Qui veut s'essayer? C'est quoi que ça veut dire le mot piété? Être pieux. Je vais demander aux parents peut-être. OK, quelqu'un qui veut s'essayer dans la salle, qu'est-ce que ça veut dire le mot piété? Comment vous résumeriez le mot piété? Juste à main levée. Oui, Sylvain? Craindre Dieu, c'est définitivement là une révérence, hein? Les enfants, être pieux, c'est quelqu'un qui sait qui est Dieu. Puis Dieu, est-ce qu'il est comme nous? Est-ce que Dieu est comme nous? Comment grand il est Dieu? Il mesure combien Dieu? Hein, les enfants? S'il rentrait ici, là, Dieu, il mesurerait combien? Non, ça se dit pas comme ça, hein? Il est partout, Dieu. Alors, Dieu est partout, puis moi, je suis pas partout. Moi, je suis petit. Alors, c'est ce respect-là envers Dieu, définitivement. Un autre aspect de la piété, ça se traduit pas juste dans un mot vraiment. Comment vous, quelle définition vous donneriez à la piété? Les adultes, en levant la main. Oui, Louise? Oui, ça, c'est important. Alors, la mise en pratique de la foi. Alors, je pense qu'avec ça, on a les deux éléments. D'accord, les enfants, je vais essayer de résumer ça comme ça. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est pieux ou qu'il vit la piété, qu'il met en application la piété, c'est qu'il respecte Dieu. Il sait que Dieu est infiniment grand puis que nous, on n'est pas Dieu. Nous, on est des êtres humains. On est limités. Alors, il y a ce respect-là, cette crainte de Dieu, comme on dit. Et ça, ça va se traduire en action. Ça va changer de quoi dans sa vie? Lorsqu'il est en train de vivre, mais quelqu'un qui est pieux, il vit pas comme quelqu'un qui n'est pas pieux. Quelqu'un qui a de la piété dans sa vie, il a un respect pour Dieu, ça paraît dans le cours d'école. Ça paraît avec les frères et sœurs, ça change des comportements, ça change des attitudes. On va parler un petit peu de la piété ensemble. Maintenant, lorsque je cherchais un titre pour la méditation, le titre que j'ai donné, est-ce que vous savez c'est quoi des pompes, les enfants? Savez-vous c'est quoi des pompes? C'est quoi? Ça gonfle des ballons. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres sortes de ballons qu'on peut gonfler. Fait que je voulais pas me faire reprendre. Mon titre que j'allais mettre, c'est push-up. Mais j'ai dit, non, ça marchera pas. Pompe ta foi. C'est ça le titre que j'ai donné. Des pompes, c'est des push-up. Vous savez, c'est quoi des push-up, les enfants? Lorsque les messieurs, ils se mettent par terre. Ça, c'est des push-up. C'est des pompes en français. Alors, le verset qu'on vient de lire ensemble dans 1 Timothée 4, 8, il dit, ça prend un exemple, mais je peux vous en faire, mais je vais être par terre. Ça fait 3 semaines que j'en fais. C'est n'importe quoi. Ça, c'est des push-ups. OK? Ça fait 6 semaines que j'en fais pour recommencer mon karaté. Ça marche? Maintenant, écoutez bien ça, les enfants, parce que là, j'ai besoin de votre aide. Je vais vous dire un mot en grec. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le grec chez les enfants? Non, hein? Mais regardez bien ça. Avec un petit peu d'effort puis d'attention, vous allez me trouver de quel mot il s'agit. Dans mon verset ici, c'est marqué « Exerce-toi à la piété ». Exerce-toi. Le mot grec que j'ai ici, c'est « gumazo ». Gumazo. À quoi ça vous ferait penser en français? Les parents, je n'ai pas de réponse. Ou « gumazo », dépendamment. Oui, Blondie? Guzzo, non, Guzzo. Ça, c'est le cinéma, Bastien. On n'est pas là. Gimazzo, à quoi ça te fait penser?
La gym.
La gym, exactement. C'est de ce mot grec-là que nous vient notre mot en français, gymnastique, gymnase. Hein? Qu'est-ce qu'on fait dans un gymnase, les enfants? On s'amuse, mais on fait de l'exercice. Hein? C'est ça, on bouge, on fait de l'exercice, on est là pour se mettre en forme dans un gymnase. Alors voyez-vous ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, il dit « exerce-toi à la piété, entraîne-toi à la piété » parce qu'il dit « c'est bon l'exercice physique, n'est-ce pas, c'est bon l'exercice physique, ça nous aide à servir le Seigneur longtemps puis en forme, donc c'est bon, mais en comparaison avec l'entraînement spirituel, c'est moins important, ce qui est le plus important, c'est l'entraînement spirituel. » Maintenant, je vais vous demander un effort. Pourquoi est-ce que c'est important de s'entraîner spirituellement? Qu'est-ce que ça change dans une vie? Oui, vas-y mon homme. Si on s'entraîne pas, on sera pas bon. Ça, tu veux dire? Si on s'entraîne, on va être bon. OK, c'est bon ça. Qu'est-ce que ça nous donne de s'entraîner spirituellement?
On va...
Un autre enfant qui veut s'essayer? Oui. Vas-y, Georges.
OK, ben quelqu'un qui est entraîné spirituellement, ça lui permet de comprendre d'autres choses, ou quand il veut parler de Dieu à d'autres personnes, il pourra sortir des choses que personne n'aurait pensé de dire, puis lui faire comprendre plus de choses.
Excellent, merci, Toby.
Ça peut améliorer sa voyons. Comment on dit ça? Excusez deux secondes, là.
Toby, un petit blanc.
Sa relation avec Dieu, c'est ça.
Sa relation avec Dieu. Excellent, excellent. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, les enfants, c'est que c'est possible de s'entraîner à être pieux. C'est possible de se mettre en forme pour grandir dans la foi. Fait que là, je sais que tout le monde a des réponses. Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire pour être de plus en plus en forme spirituellement? De plus en plus en forme pour marcher dans sa vie chrétienne? Puis après ça, je vais demander des réponses aux parents aussi. Vas-y.
Bien dormir.
Oui, c'est vrrai, bien dormir! Lâche le Xbox le soir, puis va te coucher. Le lendemain matin, tu vas prendre un temps avec le Seigneur. C'est une bonne réponse.
De prier,
évidemment. Alors, prier, on a dit bien dormir. Moi, j'accepte ça, bien dormir. On va aller ailleurs. Oui, mademoiselle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être en forme spirituellement?
Lire la Bible,
effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour être en forme spirituellement? Essayez de penser au parallèle avec le football. On a des beaux indices aussi de ce côté-là. Oui.
Se pratiquer à parler de Dieu à des personnes, genre pour pouvoir être meilleur à parler à des personnes de Dieu à d'autres personnes.
Oui, c'est vrai. Vous savez, des fois, les enfants, puis c'est vrai pour les adultes aussi, on s'en va quelque part. Cette semaine, j'avais à prendre la parole devant des gens que je ne connaissais pas, puis il fallait que je leur parle de Jésus. Puis là, j'ai fait de mon mieux, je m'étais préparé, j'avais prié tout ça, puis je voulais parler de l'Évangile, tout ça. Puis vous savez, quand je suis parti, j'ai dit, il y a ça, où j'aurais pu faire mieux que ça. Et donc, on peut se pratiquer puis apprendre à devenir meilleur parce que ça vient pas automatiquement, ça, être capable de présenter l'Évangile. Ici, j'en ai toute une liste, là, j'aimerais avoir les parents en rafale rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraîner spirituellement, grandir spirituellement? Juste en levant la main puis vous me donnez une réponse. Oui, Suzy? Alors, la communion fraternelle, et le parallèle que je ferai avec le football, c'est définitivement l'équipe. La vie chrétienne, c'est pas quelque chose qui se vit tout seul, c'est pas un marathon, la vie chrétienne, c'est un sport d'équipe. Définitivement. D'autres personnes? Oui. Mémoriser la parole de Dieu. De la même manière qu'Anthony Calvillo doit mémoriser toute une série de séquences, mes amis, il faut que ce soit là, il faut que ce soit prêt, il faut que l'équipe les apprenne pour qu'on soit capable de passer à l'action. De la même manière, on doit avoir la parole de Dieu dans notre cœur le plus possible. Camille? Alors, être capable d'analyser l'ennemi, puis je vous dirais dans ce cas-là, analyser notre cœur aussi pour savoir comment ça se passe. Tout à l'heure, Julien, qu'est-ce qu'il a dit des enfants qui faisaient? Ils regardaient des vidéos. Pourquoi ils regardent des vidéos? Le soir, ils sont fatigués, ils se sont entraînés toute la journée, ils disent « OK, on va écouter un bon film », c'est ça? C'est ça qu'ils font? Non, ils regardent des parties de l'autre équipe pour pouvoir voir « Oh, regardez ce qu'ils font ici ». Ils font toujours cette passe-là. Quand ils font cette passe-là, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qui va se passer. Regarde lui ici, il a tel tic, puis lorsqu'il fait ça, ça veut dire qu'il va faire tel mouvement. On va être capable de le deviner d'avance. Et c'est la même chose pour nous, et souvent ça va se passer dans notre cœur. Par exemple, les enfants, vous allez à l'école, tout ça, puis vous savez que lorsque telle personne à l'école vient vous accrocher ou vient vous dire quelque chose, la dernière fois qu'il l'a fait, vous êtes fâché. Vous êtes fâché, vous êtes mis à crier après, puis après ça, vous avez dit, c'était pas bon ce que j'ai fait. Mais c'est possible d'examiner et de dire, quand est-ce que ça se produit, ça? Ou bien, tu as toujours la même chicane avec ton frère ou avec ta sœur. Ça se passe au même moment. C'est possible déjà de décider dans ton cœur, de dire, la prochaine fois, quand ça va se passer, je me retire. Je me retire parce que je sais qu'après, ça va finir avec une chicane, cette affaire-là. Voyez-vous? Alors, c'est possible d'étudier comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour s'entraîner, grandir dans notre foi? Manon? Écoutez le coach qui voudrait dire... OK, c'est bon, c'est vrai. Pas être rebelle, puis écouter le coach, définitivement. D'autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, Nathalie? Rester concentré. Alors, OK, je vais tenter de le répéter. Alors, dans la vie chrétienne, on pourrait faire plein de choses, mais c'est Jésus qui est l'essentiel. On reste concentré sur lui, sur l'Évangile, plutôt que se disperser afin de pouvoir, justement, un peu comme Julien disait tout à l'heure, lorsqu'ils partent en voyage, c'est ça qu'ils aimaient, c'est qu'ils étaient concentrés sur ce qu'ils avaient à faire. Ils sont là entiers. C'est vrai que ça aide énormément dans la vie chrétienne. Un ou deux derniers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraîner? Sylvain? Définitivement. Rendre des comptes. Dans le langage biblique, confesser. Hein, n'est-ce pas? On va confesser nos péchés à Dieu, on va confesser des manquements à Dieu, mais on peut le faire aussi avec des frères et sœurs. Alors, avoir des endroits où on a des cercles, des gens qu'on connaît, à qui on peut justement rendre des comptes, puis dire comment ça va, afin de s'encourager les uns les autres, se supporter. Je vais prendre André, quelqu'un qui n'a pas partagé encore. Son don spirituel. OK, maîtriser son don spirituel. Puis si... Exactement. Excellent, c'est excellent. Alors, une des choses, effectivement, si on veut faire un parallèle avec le foot, n'est-ce pas? Connaître mes forces, connaître là où je suis appelé à servir, puis m'appliquer à faire ça pour exceller et avoir l'humilité de ne pas prétendre être capable de tout faire dans l'Église ou tout faire dans ma vie chrétienne. Il y a des domaines qui ne sont pas mes forces à moi, puis je travaille avec des frères et sœurs dans l'Église, puis ils sont beaucoup plus forts que moi dans ces domaines-là, et donc je vais avoir l'humilité de me confier en eux. Oui? Oui? Le mettre en pratique. Définitivement, il faut passer à l'action à un moment donné. C'est beau la théorie, mais il faut passer à l'action. Je vous en lis une série en rafale, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir exercer ma piété, m'entraîner et devenir de plus en plus selon Dieu et que ma vie chrétienne passe à l'action? Bien, premièrement, il faut réaliser que ça demande de l'effort. L'entraînement, ça demande énormément d'efforts. C'est vrai pour la vie chrétienne. Les enfants, est-ce que ça demande des efforts d'apprendre à obéir à nos parents? Ça demande des efforts à apprendre à obéir à nos parents. Est-ce que ça demande des efforts pour apprendre les histoires bibliques? Tantôt, il y avait des quiz. Hein, on a vu, hop, il y en a, oups, ça venait pas tout de suite. Est-ce que ça prend des efforts pour savoir se maîtriser au lieu de se fâcher lorsqu'il y a une situation qui survient? Ça demande des efforts. Alors, s'entraîner pour grandir dans la foi demande de l'effort. Ça demande d'accepter cette réalité-là puis s'engager là-dedans. Puis j'ai toute une série, par exemple, de moyens qu'on peut prendre pour s'exercer à la piété. La lecture, la méditation de la Bible, la prière, venir à l'église pour grandir ensemble, parce que la vie chrétienne, c'est un sport d'équipe, pour apprendre ensemble, la confession dans la prière. Je sais que j'ai pas été à la hauteur, je m'en vais voir le Seigneur dans la prière, puis je confesse ça. La confession auprès d'un frère ou d'une sœur, lire un bon livre chrétien pour pouvoir apprendre d'autres. Il y en a des chrétiens qui ont fait du millage puis qui ont appris de leurs erreurs, mais je peux aller lire des bons livres pour pouvoir apprendre. Alors, je vais pouvoir grandir à ce moment-là, mettre nos dons spirituels au service, comme on le dit, des chrétiens et des non-chrétiens. Le service ici dans l'Église, mais le service envers les gens de l'extérieur aussi qui sont pas chrétiens. Pratiquer l'hospitalité, ça veut dire recevoir des frères et sœurs chez moi pour pouvoir partager ensemble sur la foi et puis les servir. Pardonner ceux qui nous offensent. Refuser de laisser des relations se dégrader. Vous savez, les enfants, il y a des situations qui surviennent des fois, puis il y a un conflit qui arrive. Mais Dieu, il sait ça. Il y a une chicane qui se passe. Puis Dieu permet ça pour que vous puissiez grandir, pour que je puisse grandir. Je peux décider de dire, « Mais celui-là, je n'y parlerai plus jamais, c'est fini. » Ou bien je peux décider que je veux grandir dans cette relation-là, puis je vais aller vers lui pour pouvoir réparer, puis juste dire, « Regarde, on peut encore se parler puis avancer ensemble. » Veillez à garder mon cœur dans la joie, dans le contentement. Veillez sur la pureté de mes pensées. Donnez généreusement. Maintenant, il y a deux parallèles encore que je veux faire, puis je vais terminer avec ça. L'exercice spirituel, l'entraînement spirituel, c'est comme l'entraînement physique. C'est des affaires qui demandent de l'effort. Et on a toutes sortes d'excuses. Là, j'aimerais savoir la participation des parents, s'il vous plaît. C'est quoi les excuses qu'on se donne lorsqu'on a décidé que ce serait le temps enfin qu'on se mette à faire du tapis, à faire de l'exercice, tout ça, puis on tarde à s'y mettre? C'est quoi les excuses qu'on se donne? Je sais que j'ai de l'exercice physique, là. Je suis dans l'exercice physique à faire, mais bon, j'ai des excuses qui font que je passe pas à l'action. C'est quoi les excuses qu'on se donne? Oui, Caro. Trop fatigué, on commencera demain. Oui, Lucie. J'ai pas le temps pour faire ça, évidemment. Ça demande du temps à s'entraîner. Écoute, une demi-heure, une heure par jour, ça demande du temps. Les parents avant, c'est quoi les excuses qu'on se donne pour ne pas commencer à faire de l'entraînement ou de l'exercice physique, Sam? Ça me tente pas. D'autres choses? Il fait froid. Oui, Rachel. Oui, c'est ça. Bientôt. Bientôt, mais pas tout à fait maintenant. Quoi d'autre? C'est quoi les excuses qu'on se donne, Sylvie? Ah oui, c'est ça. Alors, je me trouve d'autres bonnes choses à faire plutôt que de faire celles que je devrais faire. Et voyez-vous, l'idée, là, c'est qu'il n'y a pas de secret, hein? Il n'y a pas de secret. Ça prend un matin où tu dis, ça commence aujourd'hui, puis je vais consacrer un peu de temps à ça. Et ça commence comme ça, l'exercice. Moi, j'ai arrêté de faire mon sport que je fais à chaque semaine pendant l'été, parce qu'on partait en vacances, il y avait toutes sortes d'activités. Et puis, je me suis dit, attends un peu, là, dans 2-3 semaines, je recommence ça. Ça fait 5 semaines que je m'entraîne à tous les jours. Je passe un 15, 20, 30 minutes. Tous les jours, je m'entraîne pour me préparer à ça. Ça prend juste une journée où je dis, je commence maintenant. Mais c'est la même chose pour grandir spirituellement. Et actuellement, avec le début des cours qui reprennent la semaine prochaine, c'est un bon moment pour prendre cette décision-là et dire, je veux pas être faible spirituellement, je veux grandir spirituellement, je commence aujourd'hui. Je regarde pas en arrière pour dire « Ouais, mais j'ai jamais été un grand, grand, grand spirituel. » Je commence aujourd'hui, je commence avec quelques disciplines spirituelles. Le dernier parallèle que je voudrais faire, parce que je pense qu'il est important, et là je veux m'adresser aux parents. Ce matin, on est en train de parler des cours bibliques qui recommencent la semaine prochaine. On parle des explorateurs et vous savez, l'Église, on forme vraiment une équipe. On est là pour avancer spirituellement en équipe, on est là pour se supporter les uns les autres, s'équiper tout ça les uns les autres. Maintenant, je pense qu'un parallèle qui a à faire avec le sport, c'est que dans le cas d'un chrétien, dans la vie chrétienne, un parent, mais je crois aussi tous les chrétiens, sont appelés à être à la fois l'athlète qui s'entraîne tous les jours et un coach. Anthony Calvillo, ça se peut qu'il décide lorsqu'il va décider de se retirer comme joueur de football, ça se peut qu'il décide de devenir coach s'il a des aptitudes pour tout ça, et puis toute son expérience va rentrer là. Dans la vie chrétienne, et spécialement lorsqu'on pense aux parents, notre rôle à nous est double. On est appelé à être à la fois des athlètes spirituels, si je puis dire. Ça veut dire que je consacre du temps tous les jours à m'exercer à la piété, à étudier mon cœur, à étudier la parole, à aller dans la prière. Et non seulement je suis appelé à être un athlète spirituellement, mais je suis appelé aussi à être un coach spirituel pour mes enfants. Et une des décisions que vous pouvez prendre cette année, c'est de décider de venir ici au cours biblique, parce qu'on est là pour vous aider, on est là pour vous assister là-dedans. Vos enfants vont être bien encadrés, ils vont repartir avec du matériel, mais c'est tous les jours de la semaine aussi où vous êtes appelés à être à la fois un modèle. L'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Alors, à la fois un modèle, et veillez vous-même sur votre vie spirituelle. Et cette exhortation-là, pour moi, elle ne va pas que pour les parents, parce que je pense que tous les chrétiens sont appelés à être des coachs. Parce qu'à un certain moment donné, ça fait un an, deux ans, trois ans, dix ans que je marche dans la vie chrétienne, j'ai des choses à partager sur la vie chrétienne, et je peux aller vers un frère, une sœur dans l'église, puis dire, hey, « qu'est-ce que tu dirais si on faisait un bout de chemin ensemble? Je pourrais t'encadrer, je pourrais t'aider, je pourrais te conseiller, je pourrais t'encourager, parce que j'ai fait un bout de chemin moi aussi avec le Seigneur. » Amen. Alors, j'invite les parents à prendre une décision et j'espère que le message est bien clair. La semaine prochaine, on commence les cours bibliques. C'est un outil parmi tant d'autres. À 9h la semaine prochaine, venez voir les parents quel cours vous aimeriez prendre. On a toute une équipe, on est bénis cette année d'avoir autant d'adultes qui s'impliquent auprès de nos enfants. On n'aura pas à attendre pendant 3-4 mois comme c'est le cas certaines années. Amenez les enfants, encouragez vos parents à dire « OK, on va être en forme, on va être des athlètes spirituels, encouragez-vous mutuellement dans la famille et prenez des résolutions comme Julien l'a fait pour pouvoir continuer dans sa carrière lorsqu'il était au football universitaire, comme Anthony Calvillo qui à 40 ans est encore un athlète. Prenons des décisions pour nous exercer, nous entraîner spirituellement. » Oui, Camille? Oui, évidemment. Ça prend un petit peu de discipline. Soyons ici à l'heure pour pouvoir commencer à l'heure puis que les moniteurs puissent passer à travers leur programme avec les enfants. C'est bon? On va terminer ensemble avec un mot de prière avant de passer à des chants. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta parole. Te remercier, Seigneur, pour ton Église. C'est ton Église, Seigneur Jésus, et c'est une joie ce matin d'être ici en Église, de réfléchir ensemble sur l'importance de s'appliquer à grandir spirituellement, d'avoir de bonnes disciplines, d'en faire une priorité, de pouvoir être inspiré par des gens comme Anthony Calvillo, comme Julien, qui dans un domaine particulier se sont appliqués, ont été sérieux, et c'est ça qui a fait qu'ils ont excellé. Bien, de la même manière, Père, je te demande que cette Église puisse prendre au sérieux des choses encore plus importantes qui ont un impact dans toute notre vie, à tous les jours, celle de s'entraîner spirituellement à marcher dans tes voies, Seigneur, à marcher sous ton regard et à chaque moment de la journée, s'appliquer à grandir spirituellement. Fais de nous, Seigneur, j'ose dire, des athlètes spirituels, des gens qui voient la priorité de ces choses, l'importance de ces choses. Fais de nous aussi des coachs pour nos enfants, Père. Aide-nous à prendre à cœur l'exercice spirituel de nos enfants pour pouvoir les encourager et les encadrer. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.